Bonjour à toutes et à tous, et pour ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de saluer, je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez les bienvenus en ce lieu et soyez assurés que le Seigneur est là parmi nous et que sa présence va encore nous remplir cet après-midi. Merci pour ces magnifiques cantiques que nous avons chantés, et c'est toujours une joie de pouvoir faire monter nos voix vers le Seigneur. La réflexion de cet après-midi, c'est croire sans servir. Mais en fait, si je m'arrête là, je retourne à ma place. Parce que croire sans servir. Bon, je vais quand même rester là, puis on va essayer d'aller plus loin ensemble. D'accord ? Alors, selon les différentes versions, moi j'ai « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Si je crains Dieu, si je veux le suivre et lui obéir, alors je le sers. Un verset du Nouveau Testament apporte un éclairage aussi de la part de Jésus, qui dit dans Luc, chapitre 4, verset 8, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. N'avons-nous pas étudié les dons spirituels ? N'avons-nous pas ressenti la nécessité de grandir et de faire grandir l'Église de notre Seigneur ? N'avons-nous pas oublié de quelle manière Jésus est venu servir et non pour être servi ? Imaginez avoir suivi 10 ans de médecine pour devenir chirurgien, mais sans jamais pratiquer aucune intervention. Imaginez avoir cherché du travail, trouvé un employeur, mais quand je commence mon travail, je reste à l'accueil sans rien faire. Imaginez avoir été sauvé d'un accident et faire comme si de rien n'était, ni envers le sauveteur, ni envers ceux à qui je pourrais faire éviter ce genre d'accident. On peut affirmer, sans se tromper, que chaque croyant est appelé à servir son Dieu. Nous sommes les ouvriers du Seigneur. Nous sommes ceux que Dieu envoie dans les champs pour moissonner, pour apporter la parole. Chacun a un poste, chacun a un rôle différent, aussi important l'un que l'autre. Et si un service ne se fait pas, c'est l'ensemble qui est mis en péril. Ce qui permet une bonne marche dans l'Église, c'est que chacun soit conscient du rôle qu'il a et du rôle qu'il tient. Dieu donne à chacun de ses ouvriers une place et un rôle selon son œuvre, selon ses plans et par le Saint-Esprit. Mais en fait, qu'en est-il en réalité ? Et on peut distinguer deux cas de figure. Le premier, c'est on ne se sent pas capable de servir Dieu. Alors, soit par manque d'expérience, soit par manque de maturité, soit par timidité, peut-être qu'on ne se sent pas suffisamment bien dans sa peau, ou peut-être on ne se sent pas assez bien tout court, ou peut-être qu'on se sent trop bien. Ouvrons une petite parenthèse pour voir de quelle manière Jésus a choisi ses disciples. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20, « Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et puis aussi, dans Marc, au chapitre 2, verset 14, Jésus, en passant, vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Et puis dans Jean, chapitre 1, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi. » Et Jésus et Philippe l'a suivi. Jésus n'a apparemment pas choisi que des gens « bien », on va dire entre guillemets, des gens dignes, des gens cultivés, des gens capables, mais simplement des gens qui ont accepté de le suivre. Et trop souvent, notre capacité à servir Dieu est basé sur nos concepts humains. Mais quels sont, aux yeux de Dieu, nos concepts humains ? Nous voyons bien que Dieu est bien moins compliqué que nous. Fermons la parenthèse. Alors, apportons quelques éléments de réponse à nos capacités. Personne n'a-t-il pensé un jour ou n'a-t-il entendu un jour « Ah, si j'étais à la place de celui-là, j'ai marqué pasteur, mais on aurait pu très bien dire, enfin, qui que ce soit, hein, au piano, au chant, à la logistique, à la préparation des textes, ou des pliants, si moi j'étais à sa place, j'aurais fait comme ceci ou j'aurais fait comme cela. » Oui, pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu as fait? Ou bien alors, cela serait à faire. Oui, il faudrait faire ça. Mais personne ne le fait. Ce n'est pas normal. Ne pas confondre se sentir incapable et se sentir trop bien, entre guillemets, pour ce que Dieu nous demande. Peut-être on dit, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ou peut-être ça ne sert à rien parce que ça ne me valorise pas, ça ne me met pas en valeur. Pourtant, nous avons vu que Dieu dispense ses dons de manière bien différente. Un tel est divinement conduit pour enseigner, pour prier, pour chanter, pour jouer de la musique, pour louer, pour accueillir, pour organiser. L'autre est conduit pour mettre la salle en place, ranger les chaises, ainsi de suite, nettoyer, agencer. Une multitude de tâches. Il peut y avoir un obstacle handicapant, je le reconnais parce que je suis passé par là, c'est la timidité. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans 2 Timothée, c'est Paul qui parle dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est à nous à saisir cela. C'est à nous à saisir cela. Alors, premièrement, c'était on ne se sent pas capable de servir Dieu. Et deuxièmement, on veut servir. Ah, là, on a le désir de servir, mais il n'y a rien qui se fait. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Peut-être on ne sait pas comment faire. On ne sait pas de quelle manière le faire. On ne sait pas comment faire le premier pas. Peut-être comment on est au volant de la voiture et il faut mettre le contact et il faut passer la première vitesse pour que la voiture avance. Pourtant, on a tout ce qu'il faut sous la main. On est dans la voiture, il y a de l'essence ou il y a du gasoil, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité maintenant. Il suffit de mettre le contact et d'accélérer. Il y a d'autres facteurs qui peuvent nous priver de ce démarrage également. Il y a déjà, est-ce que j'ai demandé à Dieu sa volonté ? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce que c'est bien Dieu que je veux servir ou mes ambitions ? Est-ce que ma vie est en règle ? Suis-je dans la bonne direction ? Est-ce que je regarde autour de moi l'œuvre de Dieu dans son Église ? Ou alors je fais l'aveugle ? Non, il n'y a rien à faire, en tout cas sans moi. En attendant que Dieu envoie quelqu'un d'autre faire la chose à ma place. Et quand Dieu me demande quelque chose, est-ce que je le fais avec zèle, avec fidélité, avec joie ? Est-ce qu'il m'est déjà venu à l'idée de regarder si les poubelles sont vides et propres, par exemple ? Si les vitres sont propres, si quelqu'un de malade a eu un coup de fil ? Si quelqu'un traverse une difficulté, est-ce qu'on l'a appelé ? Si quelqu'un se réjouit, est-ce qu'on est allé se réjouir avec ? Ou alors on se dit, sûrement quelqu'un le fera à ma place. Ou c'est le rôle du pasteur. Le pasteur ou le responsable n'est pas là pour tout faire. En tout cas, pas le faire à votre place. Est-ce que j'arrive à l'heure aux réunions ? Oui, déjà, est-ce que je vais aux réunions ? Est-ce que je participe ? Et aussi, est-ce que je participe quand on passe le panier d'offrande? Peut-être que je fuis aussi mes responsabilités. Mais par contre, on demande au Seigneur, bénis-moi abondamment. Ah, bénis-moi Seigneur. Je veux que tu me bénisses. Remplis-moi de sagesse. Mais encore faut-il l'utiliser, cette sagesse. Donne-moi un bon travail, donne-moi du bonheur, donne-moi de la joie, donne-moi de l'amour. Donne. Et moi, je ne donne rien. Mais en revanche, je ne suis pas salarié de Dieu. Je ne suis pas salarié. Dieu, ce n'est pas mon employeur. Je ne reçois pas de salaire parce que je suis serviteur. C'est du volontariat, c'est du bénévolat. Alors je n'ai pas d'obligation ni de compte à rendre, puisque c'est du bénévolat, c'est du volontariat. Je veux servir, comme on voit dans ce deuxième point, mais est-ce que je suis vraiment disposé à le faire? Voilà, en résumé, quelques exemples de situations typiques. C'est ce que l'on retrouve le plus souvent, le plus fréquemment. D'autres plus évidentes et d'autres moins évidentes. Il en existe d'autres et chacun vit sa propre expérience dans son engagement auprès de l'Église. Il y a des cheminements qui ne sont pas faciles, il y a des situations qui ne sont pas faciles, des situations qui sont délicates. Mais n'oublie pas qu'en toutes circonstances, Dieu est là pour nous aider. Et je vous assure que Dieu veut nous recruter. Est-ce que chacun de vous, est-ce que vous connaissez les activités présentes dans cette église? Voilà, question ouverte. Je vous laisse y réfléchir chacun de votre côté et d'apporter les réponses. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de... On parle encore aujourd'hui de curriculum vitae. Il n'y a pas d'entretien préalable à l'embauche. Il n'y a pas de job dating, il n'y a pas de choses comme ceci. Voilà, il n'y a rien. Ah, c'est bête. Mais non, il n'y a rien. Alors, si on peut quand même se permettre d'imaginer un curriculum vitae pour servir Dieu. Alors, on commence par le nom. Mettez le vôtre. Votre âge, votre date de naissance, votre adresse. Voilà, Seigneur, je m'appelle Noémie, j'habite Montévrain. J'ai 15 ans. Non, c'est un exemple, Voici mon expérience. Non, c'est vrai, je marque néant parce qu'avec Dieu, j'ai pas besoin d'avoir d'expérience. Et à quel poste je veux être? Je veux juste servir Dieu. Je veux être serviteur et je veux être servante. Il n'y a pas de curriculum vitae à fournir à Dieu. Il n'y a pas d'expérience particulière. Contrairement à ce qui est aujourd'hui, on demande souvent, quelle est votre expérience professionnel. Sauf que quand on n'a jamais travaillé, c'est difficile d'avoir une première expérience. Or, il faut une première expérience pour juger d'une expérience. Il n'y a pas d'âge limite. Ah, ça c'est pas mal ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retraite avec Dieu. Il n'y a pas besoin de diplôme. J'ai pas besoin d'avoir fait X années de théologie. J'ai pas besoin. Que du volontariat. Quel contraste avec le monde du travail qui est tout à l'opposé. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour te servir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton Église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En tout cas, une chose est certaine, et moi je l'ai vécu dans les premier temps de ma conversion, j'ai sûrement déjà dû vous le dire, lors d'une réunion d'un groupe de jeunes, le responsable me dit « Tiens, qui est-ce qui prépare une petite réflexion pour samedi prochain ?»« Jean-Michel, hola !» Et là, je regarde ma Bible et je dis « Mais qu'est-ce que je vais bien... » Lire et surtout partager, parce que lire c'est une chose, mais partager. Donc je feuillette ma Bible et j'arrive dans Apocalypse. Et je lis Apocalypse 3. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh mince. Mince parce que souvent on est entre les deux. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ah, souvent on est froid. Quelquefois on est bouillant, mais souvent on est tiède. Et alors là, la lecture continue. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de l'or, de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ben, quand vous lisez ça pour la première fois, ben, vous prenez une grosse claque dans la tête. Seigneur, là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux répondre à cette question ? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Parce que le Seigneur, il nous connaît. Il sait comment nous sommes. Il sait si on a envie ou si, il sait si on n'a pas envie. Il sait si on veut, il sait si on ne veut pas. Le Seigneur préfère que nous soyons froids, au moins entre guillemets, il n'y a pas de regret, ou bouillants, mais pas en marchant comme quelqu'un qui a pris des substances, qui n'arrive pas à marcher droit sur une ligne, mais qui un coup va à gauche et un coup va à droite. Eh bien, c'est pas évident de partager un texte comme ça. Mais c'est dire, oui, au fait, Seigneur, comment tu me vois ? Comment tu me vois ? Est-ce que tu me vois froid, tiède ou bouillant ? Alors, bouillant, ça veut pas dire sauter partout, hein. Dans tous les sens, hein. Ouais, je suis bouillant pour le Seigneur, ouais ! Non, on va en reparler. Il y a aussi toutes les excuses que nous mettons en avant pour fuir le service que nous avons à rendre à notre Seigneur. Et du temps de Jésus, vous savez, cela existait déjà, c'est pas nouveau. Dans Luc, chapitre 9, versets 59 à 62. Donc Jésus parle, qui veut me suivre ? Qui veut me suivre ? Jésus dit à l'un, suis-moi. Et la personne dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, je te suivrai. Déjà, c'est pas le présent, c'est je te suivrai. Mais permets-moi d'aller prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors peut-être qu'on peut se dire, « Mais Seigneur, il est dur dans ses paroles. » Non, le Seigneur, il n'est pas dur. Il remet dans la réalité, dans la vraie vie. Quand, tout à l'heure, nous avons lu comment Jésus choisit ses disciples, les pêcheurs, ils ont tout laissé tomber, ils sont partis, ils l'ont suivi. Les poissons, les filets, la barque. Le gars qui avait un boulot, qui était percepteur d'impôts, il a tout laissé, il est parti, il a suivi Jésus. Il n'a pas dit, ah oui, il faut d'abord que je fasse la caisse, hein, que je la remette à mon patron, et après je te suivrai. Qu'est-ce qu'il veut montrer Jésus par là ? Que maintenant, c'est maintenant. Quand il nous appelle, c'est maintenant, c'est pas demain. Parce qu'on ne sait jamais demain. Demain, peut-être, sera trop tard. Comme quand Dieu nous appelle. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur, pas demain. Le « je te suivrai » ou alors c'est « Seigneur, je te suivrai, mais si tu me donnes ceci ou si tu m'accordes cela ». Non, ça s'appelle du chantage. Et on ne fait pas de chantage avec Dieu. Et puis aujourd'hui, il t'appelle, demain il dit « bon, ben, puisque tu ne veux pas, ben, je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Je te laisse tiédir. peut-être refroidir. Mais si tu veux être bouillant, suis-moi. Avons-nous le désir de servir Dieu, hein, par amour, par humilité, même si on doit nettoyer les toilettes, hein. Nous, on vit une grande expérience de notre église, c'est le ménage. Alors là, c'était un grand moment de solitude. Qui fait le ménage ? Il n'y a pas une main qui se lève. Il n'y en a pas un qui dit « Moi, j'ai fait un ménage. » Bon, et maintenant, c'est toujours les mêmes qui font le ménage. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Voilà, question ouverte. Remarque ouverte. Moi, ça ne me dérange pas d'aller nettoyer les toilettes, hein, de mettre les mains dans la poubelle. C'est un service que je rends à Dieu. C'est une joie. Si les toilettes sont propres, c'est que la maison est propre. Bon, j'arrête de parler des toilettes. Mais si la cuisine est propre, c'est que la maison est propre, voilà. Et si le salon est propre, c'est que la maison est propre. Mais je pense que vous m'avez compris, vous avez compris la pensée. On a tellement de moyens d'agir pour servir Dieu. Il ne faut pas rater les occasions. Il devrait même y avoir plusieurs personnes pour faire la même chose. Vous savez, on peut servir Dieu aussi par la prière pour son Église, être des intercesseurs. Des intercesseurs pour l'Église, mettre les genoux par terre et demander ardemment que Dieu bénisse et protège son Église, que Dieu bénisse et protège tous ceux qui sont engagés dans l'Église. En conclusion, bon, la conclusion est un petit peu longue, mais c'est la conclusion. À plusieurs reprises, la Bible dit « Sers le Seigneur de tout cœur ». Dieu veut que je le sers passionnément. Non par obligation, là c'est pas la peine. Si je le fais par obligation, mon service ne sert à rien. Souvenez-vous, les dons spirituels, si je ne le fais pas par amour, ça sert à rien. C'est du vent, Dieu n'apprécie même pas. Est-ce que je le fais par devoir ou est-ce que je le fais avec plaisir et en prenant du plaisir? Les gens excellent rarement dans les tâches auxquelles ils ne prennent pas plaisir. À faire des choses où ils ne se sentent pas passionnés. Comment savoir que je sers Dieu avec mon cœur ? Deux points. Déjà, quand je suis enthousiaste, quand je viens nettoyer l'église, j'aime bien le ménage, hein, quand je viens nettoyer l'église, je le fais avec plaisir. À la limite, je chante, je siffle, voilà. Une petite anecdote, mon pasteur m'a vu avec mes chaussettes, en chaussettes dans l'église, en train de nettoyer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais en chaussettes ? Je dis, comme j'ai des chaussettes blanches, c'est pour voir si le sol est bien propre. Ça nous a fait rigoler tous les deux. Donc, est-ce que je fais avec enthousiasme ? Car quand je fais ce que j'aime faire avec joie, personne n'a besoin de me pousser, personne n'a besoin de me motiver, personne n'a besoin de me défier, et surtout, personne n'a besoin de me surveiller. De plus, j'ai pas besoin de récompense, j'ai pas besoin d'applaudissements, au contraire, j'ai pas besoin d'être payé. Mais quand je fais quelque chose que je ne prends pas à cœur, je suis facilement découragé. Puis je traîne les pieds, puis oh, faut encore faire ça. Ou alors j'ai pas envie de le faire. Ah, il faut faire ça. Et deuxième point. Comment savoir que quand je sers Dieu avec mon cœur, quand je suis efficace? Car quand je fais ce que Dieu m'a donné de faire, je le fais bien. Je le fais en recherchant la perfection. Je le fais en recherchant l'excellence. Je le fais en recherchant la précision. Je ne dis pas que tout sera parfait, mais j'ai à cœur de le faire le mieux possible avec tout mon cœur. J'ai rencontré à plusieurs reprises des collègues au travail qui avait une certaine philosophie du boulot. C'était « moi je bosse que pour l'alimentaire », c'est-à-dire pour avoir la paye à la fin du mois. Car ce que je fais, ça ne me plaît pas. Je dis « quel gâchis, parce que si ce que tu fais là ne te plaît pas, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui te plaît, dans lequel tu vas t'épanouir, dans lequel tu vas apporter une plus-value. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, et puis combien de lassitude et de découragement à la clé. Ah, je ne saurais pas faire... Moi, personnellement, Jean-Michel, je vous le dis, je ne saurais pas faire quelque chose que j'aime pas. C'est, pour moi, c'est inconcevable. Et puis, l'argent ne fait pas assurément le bonheur. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas avoir une bonne paye à la fin du mois que tu vas dire, ah, j'ai passé un bon mois, je suis content de ce que j'ai fait. Je ne suis pas content de ce que j'ai fait, ça ne m'apporte rien, c'est... Voilà. Morne pleine. Visons la vie meilleure avec Dieu, servir Dieu d'une manière qui reflète mon cœur. Recherche, toi, recherche. Et trouve ce que tu aimes faire, ce que Dieu a mis sur ton cœur, et fais-le pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.